Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serros.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. À côté des grands médias qui occupent ici le haut du pavé, tel Midi Libre, la Gazette de Montpellier, France 3, France Bleu Hérault, qu'en est-il des bien plus modestes et néanmoins vifs, des petits qui ont pourtant pleinement droit de citer si l'on considère que le pluralisme des organes d'information est un impératif démocratique? Cette question est aujourd'hui notre sujet parce que les médias occupent une part importante dans la vie personnelle et collective des habitants, à divergence, médias indépendants, nous le savons bien, et aussi parce qu'un rendez-vous prochain, le 23 avril, éclairera ce sujet. Ce sera l'étape montpelliéraine des états généraux de la presse indépendante. Ces états généraux ont été impulsés au plan national par le Fonds pour une presse libre, organisme à but non lucratif créé par les cofondateurs et des salariés de Mediapart. Son triple objet, défendre la liberté de l'information, le pluralisme de la presse et l'indépendance du journalisme. Le 30 novembre 2023 à Paris, le Fonds pour une presse libre a réuni plus de 100 médias et organisations lors d'états généraux de la presse indépendante. 59 propositions de réforme de notre système d'information ont été travaillées et présentées dans cette rencontre inédite. La réunion le 23 avril au Cinéma Diagonal à Montpellier donc s'appuie sur cet acquis. Je donnerai plus tard des précisions sur le programme de la soirée. Ces états généraux de la presse indépendante version Montpellier sont organisés par le Fonds pour une presse libre en collaboration avec l'association Un bout des médias, dédié à l'indépendance des médias et présidé par Julia Cagé, donc j'en dis un mot économiste, qui a produit un livre de référence, me semble-t-il, avec l'avocat Benoît Huet, « L'information est un bien public, refonder la propriété des médias ». Ce rendez-vous du 23 avril est sans précédent. Pour la première fois, la diversité et le nombre des médias locaux indépendants va apparaître d'un coup. Seront ainsi représentés, je donne la liste, des 11, Alter Midi, La Glorieuse, L'Empaillé, La Pieuvre, Le Point, avec un G, Les Indiscrétions, Locaux, LO2KO, pour qui ne connaîtrait pas, ils ont tort, Madame Perpignan, Métamorphose, Rapport de Force et enfin Stupid Economics. Trois de ces médias sont aujourd'hui représentés au micro de Divergence FM. J'accueille donc Elian Barascut, journaliste au Point, Tristan Cuche, créateur et rédacteur en chef de La Glorieuse, et Valérie Hernandez, créatrice et rédactrice en chef de Locaux. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Alors habituellement, les auditeurs, les fidèles auditeurs, savent que l'émission commence par des questions autour de « Racontez-nous votre Montpellier, les lieux favoris, que pensez-vous de la ville ?» Alors on va sauter pour cette émission spéciale, cette petite séquence, et rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc « Racontez-nous la presse indépendante ». Pour permettre aux auditeurs et aux auditrices de mieux connaître le média que vous représentez, d'abord, petite présentation. Quand votre média a-t-il été créé? Quel support produisez-vous? Journal papier, site, infolettre? Et avec quelle périodicité? Alors, par ordre d'ancienneté, si ce n'est d'âge, du moins de création du média, d'abord, la parole est à Tristan Cuche. Alors, création de La Glorieuse.
Bonjour. Création mai 2002. Oui. Donc, ça fait 22 ans.
Fidèle au poste.
Toujours fidèle, on est toujours là, toutes les semaines depuis 22 ans.
Alors, un journal?
Un journal papier à Montpellier et des fils d'actu sur 5 ou 6 départements dans l'Occitanie. Trois fils d'actu où on est très productif, c'est l'Aveyron, l'Aude et les PO. On est aussi productif sur le Tarn, Toulouse. Et on a ouvert des fils d'actu, on cherche à les réactiver sur le Gard et sur la Lozère. Et bientôt, on va ouvrir l'Ariège.
Voilà. Un véritable empire.
Non, mais bon, on s'amuse, donc on continue.
Donc, Donc, je ne dis pas ça que La Glorieuse, c'est un journal hebdomadaire. Hein, donc,
c'est un journal hebdomadaire sur du print à Montpellier.
Et qui s'est appelé, d'ailleurs, peut-être au départ, La Glorieuse, pour peut-être faire comprendre aux auditeurs ce alors, que ce alors, mot comporte
alors,
de
jeu. Alors oui, alors,
de,
au départ, c'était en 2002, Fraîche était tout puissant, Charlie Hebdo vient au Diagonal, donc on y revient, nous. Et ils font un supplément sur Montpellier. Ils se foutent de la gueule de Fraîche à l'époque. Ça irrite tout le monde. Et bon, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose, un petit journal satirique, local, d'information et d'enquête.
Voilà, on y reviendra. Alors, même question à Liam Barascul. Le Point, donc, a fêté ses 10 ans.
On a eu 10 ans au mois de janvier dernier. C'est un canard à la base étudiant qui est né en décembre 2013 à la fac de droit de Montpellier, qui était porté par des étudiants qui avaient envie de distiller des idées de gauche dans une fac de droite. On est un média papier tous les deux mois, sur le web tous les jours, sur abonnement en papier et en accès libre sur Internet.
Très bien. Alors, même question, Valérie Hernandez, locaux. Date de création.
Il y a 5 ans.
5 ans.
Il y a 5 ans, Loco, c'est un média en ligne, un pure player exclusivement, qui s'intéresse aux sujets de culture et société principalement, en essayant de produire des formats un peu différents, un ton, des façons d'écrire, de fabriquer du son, notamment un peu nouveau, un peu exploratoire. Voilà.
Donc les auditeurs, ils ont une petite idée de ce petit panorama. J'espère qu'ils vont découvrir tout ou partie des titres qui sont représentés. Et alors, dans le prolongement de la première question, dans le même ordre, pour l'instant, on verra qu'on varie l'accès au micro de chacun d'entre vous. Quelle est la ligne éditoriale? Comment vous choisissez les sujets de l'actualité locale ou régionale que vous traitez et comment vous les traitez? Quel est le cœur de la formule que vous proposez au lecteur, Tristan Cuche?
Alors, nous avons beaucoup de cœur, énormément de cœur. Alors, notre ligne éditoriale, c'est un brin politique, un petit brin d'humour, un petit brin d'impertinence, quelques enquêtes. Voilà, on met ça dans le shaker et puis on essaye de sortir un journal toutes les semaines.
Avec une grande part donnée quand même aux informations politiques, ou de la sphère politique.
Ah oui, 80% politique. Voilà. Voilà, on est sur la politique, on ne va pas trop sur d'autres champs. Voilà, il y a le combat avec le Point, il y a la culture avec Loco. Nous, on reste sur la politique. Parfois, on déborde un peu, parce que c'est vrai que la culture, parfois, c'est un sujet politique.
Oui, ouais, parce qu'il y a une rubrique culture et une rubrique média, mais entre autres, que j'ai en tête, hein, qui est quand même avec un angle d'entrée sur ces sujets liés quand même à la vie politique ou à la sphère politique.
Voilà, c'est politique.
Très bien. Alors, Elian, même question, là, vous l'avez un peu dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on trouve dans le Point et comment vous, parce que c'est, chacun de nous trois et moi-même le sait pour avoir été journaliste, hein, quelles infos choisit-on, première question, et comment les traite-t-on?
Nous, on est un journal à la base axé sur la couverture des mouvements sociaux, parce qu'à la création du Point, on considérait que c'était mal fait par les médias dominants et qu'ils faisaient ce qu'on appelle journalisme de préfecture, c'est-à-dire que c'était la parole de la police qui était relayée plus que la parole des acteurs des mouvements sociaux. Et on a dit qu'il fallait qu'on change ça. Donc nous, notre ligne éditoriale, c'est le suivi des mouvements sociaux. Et avec le temps, on s'est aussi intéressé, tourné vers l'enquête. Et on essaye aujourd'hui d'être un média de contre-pouvoir qui va être un poil à gratter de la mairie, de la métropole. On couvre aussi beaucoup les faits et gestes de l'extrême droite locale. On est souvent cité par la presse nationale pour nos enquêtes sur l'extrême droite. Et après, nous, comment on traite les sujets, c'est on est au plus près des gens qui sont dans les luttes sociales ou qui ont des quotidiens de galériens. Par exemple, on a fait récemment un sujet sur les locataires de logements insalubres ACM. Et ben, on a passé la journée avec eux pour voir un peu leur quotidien, tout ça, etc.
Donc, on est vraiment. Alors, est-ce que c'est une manière de rompre avec ce qu'on appelle le journalisme de bureau, de desk, comme on dit, c'est-à-dire des journalistes qui, bon gré mal gré, traitent de l'information qu'ils récupèrent de droite à gauche sur les sites internet ou ailleurs et qui sortent jamais voir ce qui se passe dans la rue?
Est-ce non, nous, on est tout le temps dans la rue, justement. C'est ce qui fait notre spécificité à Montpellier.
Alors Valérie, même question, là, qu'est-ce qui caractérise la ligne éditoriale de Loco? Vous avez dit un angle société, un angle culture, comment ce choix de base, hein, originelle, oui. Se traduit-il ?
Alors, c'est vrai qu'au départ, on était exclusivement culturel, et plus ça va, mais je pense que ça va de pair. On a de plus en plus traité de sujets sociaux, de culture et politique, mais elle ramène aussi sans arrêt à des sujets de société. On s'est dit aussi que la culture, elle était traitée de manière un peu sclérosée. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a quasiment plus de critiques théâtrales en France, ailleurs, à Montpellier. Souvent, la critique, c'est des choses qu'on fait avant, pour annoncer. Donc ça a toujours une visée un peu commerciale.
Promotionnelle.
Voilà, et c'est lié à tout ce dont on va parler tout à l'heure, je pense. Et donc nous, effectivement, on essaie de poser un regard déjà sur le travail de manière libre. Après, cette liberté donc, qu'on revendique et qui est aussi liée peut-être au sujet qu'on va voir tout à l'heure, c'est aussi de foncer dans des sujets sans la retenue habituelle des journaux qui ont d'autres intérêts ou d'autres freins. Et dire qu'effectivement, y aller peut-être plus franchement. Là, par exemple, on a fait une interview... un podcast avec Yann Le Guiz, qui est un architecte très critique, qui est un des grands porteurs d'une critique architecturale en France, qui est montpelliérain et qui a une pensée critique sur les folies, par exemple. Voilà, mais on aime bien passer par le débat, par les entretiens de fond. Voilà, c'est un petit peu ça. Puis après, on essaie, je disais exploratoire tout à l'heure, je ne sais pas trop si le mot est juste, mais c'est vraiment, par exemple, on fait des podcasts, on a fait des podcasts sur une série qui s'appelle Erotico, pour lequel on a été pas mal interviewé, parce qu'il y a assez peu de choses, de propositions comme ça sur les usages, les nouveaux usages en matière de sexualité. Voilà, donc on va vers des choses à la fois des béances, des endroits où...
Des choix bon, très sélectifs. Bon, il y a d'autres journaux qui ont une fonction d'exhaustivité de l'annonce, de la programmation. Oui.
Mais nous, on publie très peu, voilà. c'est volontaire.
Et donc, il y a, notamment dans l'infolettre, moi je dis infolettre, je ne dis pas newsletter.
Newsletter, oui.
Dans l'infolettre hebdomadaire, il y a trois infos, quatre.
Pas oui, plus, c'est ça. Non, mais
développé
on est...
pour
oui,
le
oui.
coup.
Oui, non, c'est ça. On est.
Une manière
on est...
de rompre avec ce que j'appelle l'empire de la brève. Quoi.
On est des artisans, moi, je crois. On préfère être dans un artisanat de luxe qui prend son temps, qui est bien fichu, qui est serein. On n'a pas à courir, on n'en a pas les moyens, de toute façon, à courir après l'info en continu, rapide, etc. Donc, on fait les choses à notre rythme, mais on préfère poser un bon article qui a du sens, qui est bien foutu, que de faire plein de choses qui ressemblent à ce qui se fait par ailleurs.
Alors, artisanat, disait Valérie Hernandez, donc j'en viens à une question de base qu'il faut poser sur vos ressources, hein, comment vous vivez, comment vous vivotez, comment vous survivez, pour dire aux auditeurs quelles sont vos ressources, et après on enchaînera sur, ça a été déjà évoqué, sur la part de ces ressources qui arrivent, pourraient arriver du côté des grandes collectivités locales de notre territoire, comme on dit avec ce mot plus qu'usé de territoire. Alors, qui veut bien dire, comment se composent vos ressources ? Oui, donc voilà.
Alors, nous, nos ressources, c'est 0% des collectivités locales. C'est à peu près... C'est les ventes du journal papier, les ventes sur des abonnements sur le web et les annonces légales.
Voilà.
Voilà, donc
et quelques publicités en plus des annonces légales.
Mais alors vraiment, c'est epsilon. Hein.
Ouais, d'accord.
C'est epsilon par rapport
alors, à... Alors les annonces légales, notamment de création de sociétés.
De création de sociétés, voilà. De vente de fonds de commerce, de changement de régime matrimonial. Ouais.
J'explique aux auditeurs que ces annonces légales sont obligatoires quand il y a un mouvement, quel qu'il soit dans une société, y compris la dissolution. Donc il faut paraître, on peut choisir de publier cette annonce obligatoire dans la marche de sa société, dans les colonnes, donc, de La Glorieuse.
Voilà, vous êtes les bienvenus.
Alors, qu'en est-il du point ? Donc, j'imagine que le flot des publicités des grands groupes internationaux doit être faible, mais encore...
Nous, la particularité, c'est qu'on a avancé 9 ans sans plan économique et que le journal était financé par les APL et les bourses du Crous. Entre autres, et puis l'an dernier, on s'est dit qu'il fallait qu'on sorte du bénévolat parce que la précarité nuisait à la qualité de l'information. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu un petit coup de pouce d'un mécène. On a fait une campagne de dons, ce qui a permis de pouvoir me salarier à mi-temps. Et aujourd'hui, notre modèle économique, c'est les abonnements sur le papier, les dons sur le site internet et de plus en plus l'éducation aux médias dans les collèges et les lycées. Ça, c'est moi qui m'en occupe. Et en plus d'avoir une utilité sociale de plus en plus importante, c'est quand même une part de nos ressources financières qui est non négligeable aujourd'hui.
Très bien. Alors, même exercice de transparence.
Oui. Alors, vous le voyez, les modèles économiques, c'est typique de la presse indépendante. C'est-à-dire qu'on a chacun un petit modèle sur mesure. Évidemment, il y a des ressources qui se retrouvent, mais chacun a construit son propre modèle. Nous, on a... on lance des locaux live qui sont des journalistes sur scène. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler, pour lequel on a du mécénat. On a aussi fait des campagnes de dons. assez souvent. Voilà, il y a en gros mécénat, campagne de dons.
Et des prestations de services dans le prolongement.
Et il est arrivé qu'on fasse un peu de branding, ouais. Voilà. Par exemple, on nous a commandé une série de podcasts sur l'urbanisme, là, qui a été rémunéré. Voilà, donc
dans un domaine, il y avait des contenus qui... ne sont pas, me semble-t-il, en rupture ou en contradiction avec l'offre d'information que
vous développez. On est sur le fil. En revanche, zéro aide des collectivités locales. C'est quand même ça, c'est notre point commun, là, qui est la base commune de notre identité. Ça, c'est important.
Alors, cette question de ce que pourrait être l'apport financier des collectivités locales, bien sûr, c'est un élément central. Il sera à coup sûr évoqué donc, le 23 avril à la soirée du Diagonal auquel vous participez et que j'ai annoncé. Comment, selon vous, peut-être, bon, commencez par vous, Tristan Cuche, cette question se pose-t-elle? Est-ce que vous êtes demandeur? Est-ce que, parce qu'il y a, bon, pour faire simple, il y a plusieurs sortes de possibilités. Il y a de la subvention. Je soutiens une initiative éditoriale, soutiens l'éditeur. Puis il y a de l'achat d'espace sous diverses formes, les annonces légales, les publicités, d'autres formes de contribution à des événements, par exemple, où les deux partenaires, on le voit dans les grands médias, et une collectivité contribuent conjointement à financer une opération. Alors, pour ce qui vous concerne, qu'en est-il? Et peut-être aussi, vers quoi voulez-vous aller, quoi? Est-ce que les ressources actuelles dont vous avez donné le détail tout à l'heure vous paraissent grosso modo satisfaisantes ou il y a quelque chose quand même à revoir dans le système?
Non, je vais vous dire quelque chose. La clé de voûte de nos médias, enfin, et entre autres de La Glorieuse, c'est que nous sommes libres. Voilà, il y a eu les radios libres. Ensuite, bon, les radios ont évolué. Aujourd'hui, nous faisons des médias libres. Donc, qui dit libre de faire ce que veulent faire les journalistes. Donc, nous n'allons pas aux conférences de presse pour médiatiser la communication des institutionnels. Nous faisons des enquêtes, nous faisons un travail de fond, nous faisons des enquêtes sur le terrain comme Le Point, les gens nous appellent, les gens veulent médiatiser des choses qui ne sortent pas ailleurs. Donc voilà, notre clé de voûte, c'est la liberté. Et pour être libre, voilà, faut n'avoir pas de compte à rendre à la collectivité locale.
Mais est-ce que ça conduit, je dirais, à une espèce d'ascétisme du fonctionnement, des rémunérations voilà.
C'est-à-dire que oui, la liberté a toujours un prix. Et il faut pouvoir payer ses factures, donc nous, on paye nos factures, on paye nos collaborateurs, mais ensuite, si vous voulez, voilà, les budgets, quand on publie les lignes qui sont accordées aux grands médias, que ce soit télé, que ce soit médias papier, aux conseils municipaux de Montpellier, eh ben c'est hallucinant. Donc voilà, ce serait bien qu'il y ait une répartition auquel les petits médias puissent profiter aussi. Mais on ne le demande pas.
Ah voilà, c'est ça, on parce qu'on n'est pas demandeur. Parce qu'il y a deux attitudes.
Hein, on n'est pas du tout demandeur. Parce que c'est vrai qu'en contrepartie, on le voit. Il y a des interviews, il y a des complaisances, il y a des choses. Et ça, si vous voulez, nous, on veut notre liberté et on ne demande rien. Alors nous, par exemple, je donne un exemple quand même qui est sidérant. Avant les élections 2020, comme Michael Delafosse était on va dire, dans le contre-pouvoir,
il était dans l'opposition.
On l'a invité trois fois pour développer son contrat. Son programme et son constat. Eh bien, arrivé à la mairie, il nous a blacklisté des conférences de presse. On ne reçoit plus les conférences de presse. On avait 10 abonnements à la mairie. Ils ont supprimé les 10 abonnements. Donc, c'est un geste quand même qui est hallucinant. Voilà, nous on a respecté une espèce de contrat démocratique en l'invitant trois fois pendant la campagne des municipales et en contrepartie, Sorel est venu zéro fois sur notre web TV et il arrive et il nous coupe tout. Voilà.
D'accord. Alors, On voit bien qu'il y a comment dire, deux sujets bon, qui s'emboîtent. Hein, il y a la question des ressources, il y a la question de l'accès à l'information et de l'égalité d'accès par les médias, quels qu'ils soient, aux informations distribuées par, par la collectivité.
On a un fil d'actu aussi à Perpignan. À Perpignan aussi, c'est catastrophique. Hein. Donc, je veux dire, c'est le pouvoir, en fait.
Mais Mars Actu a les mêmes problèmes à Marseille. Mars Actu, qui fête ses 9 ans, qui est un journal d'investigation maintenant installé, continue à avoir ses problème-là. Donc c'est quand même un des grands combats de la presse indépendante, c'est d'être respecté. Et donc nous, on réfléchit à comment porter cette demande.
Comment cette disparité ou cette discrimination peut être dépassée? Est-ce que ça relève ce que serait une action collective d'un certain nombre des titres? Voilà, comment, vers quelle solution avancée pour que, au-delà de ce constat que vous faites, plus ou moins énervé, on peut comprendre, en tout cas, ou agacé.
La jeunesse a des solutions.
dans vos discussions, même si elles ne sont pas abouties, peut-être un mot, vers quelles réponses, dont j'imagine qu'elles peuvent être à la fois collectives et individuelles, vous pensez pouvoir aller ou devoir aller?
À titre individuel, il y a une solution qui est légale et juridique, qui s'appelle la commission d'accès aux documents administratifs. Et du coup, quand la mairie ou la métropole refuse de nous donner des informations qui pourtant sont publiques, on menace de saisir la CADA.
Y compris sur le détail des budgets dévolus à la communication, pour être clair?
Ça peut être ça. Là, moi, je pensais plutôt au logiciel de recoupement des images de vidéosurveillance dont il a été question au conseil municipal du 26 mars dernier, qui coûte 300 000 euros. On aimerait bien savoir un peu l'étude de marché, l'étude d'impact, le nom du logiciel. Ces informations, malgré moult relances, ne nous ont toujours pas été communiquées. On envisage de saisir la CADA.
C'est-à-dire un dispositif existant depuis nombreuses années qui permet aux citoyens, aux particuliers et aux médias d'accéder à des informations publiques avec les documents publics afférents à ces sujets. Tristan Cuche.
Oui, je voudrais rajouter quelque chose. J'ai fait un courrier d'avocat justement sur le fait qu'on n'était pas informé de ce qui se passait au nom de la collectivité de Montpellier et de la métropole, en disant qu'il y avait des dispositions légales au niveau européen de liberté d'information, en disant qu'on avait le droit de recevoir les communiqués de presse. Eh bien, j'ai envoyé un courrier. Et rien ne m'a été répondu.
Un courrier adressé quoi, au maire, président de la métropole.
Au maire, en disant qu'il y avait de la discrimination, que c'était pas une attitude de liberté et de fluidité de l'information. Et voilà.
Alors, autre regard, au point de vue.
Oui, moi je pense que ça s'inscrit.
L'abondance, par exemple, des sources d'information. Oui. L'abondance des informations culturelles appuyées sur des institutions culturelles. Largement ou totalement financé par de l'argent public. Est-ce que cet aspect des choses, du paysage dans lequel locaux s'installe, induit une manière particulière, propre à locaux, d'aborder les questions dont nous parlons?
Moi, je travaille beaucoup en off. Oui. Là, je travaille sur la danse. Tout le monde parle en off. De toute façon, personne n'ose parler autrement. Mais ça, c'est pas très compliqué d'avoir accès à l'information sur les sujets culturels. Mais là, ce qu'on dit, ça s'inscrit dans un sujet plus large, qui est un pur sujet de démocratie locale. C'est comment une démocratie locale, quel est son rapport à la presse et à sa liberté. Donc, en gros, les collectivités, les élus sont déjà des patrons de presse, c'est-à-dire qu'ils produisent une information, une communication, on va dire, mais qui est quand même dirigée des journaux, des sites. Et c'est de plus en plus vrai. À Montpellier, c'est en train de prendre des proportions absolument extraordinaires et partout ailleurs. Donc, ce sont des patrons de presse d'une information que le SPIL, le syndicat des médias en ligne où nous sommes tous, qui est une force aussi dans notre métier, condamné comme concurrence déloyale. Et ça s'ajoute, mais c'est pareil, un système vraiment de liens, d'intérêts croisés avec la presse existante, mainstream, qui elle est largement financée. Bah, du coup, ça retient un peu la plume, hein, on le sait bien. Et du coup, ça fait des sortes d'alliés dans la presse. Tout ça, ce n'est pas dit, mais tout le monde, personne n'est dupe, mais donc ça s'inscrit dans un système plus large qui est assez peu un sujet. Donc nous, on essaie d'amener ce sujet-là. C'est vrai que le Fonds pour la presse libre de Mediapart et un bout des médias qui organisent cette soirée du 23 avril, parce que c'est pour ça qu'on est là, ils ont travaillé sur les grands milliardaires, les grands propriétaires de la presse nationale, il y a un front anti-Bolloré. Donc nous, notre discours, c'est de dire localement, il y a des problématiques similaires, voilà, et il faut les regarder aussi. C'est souvent mis de côté ces sujets-là qui sont liés aux médias territoires, mais qui sont aussi des sujets de liberté, quoi.
Alors, si je comprends bien pour votre approche, c'est pas simplement « je défends mon bout de gras » ou « je veux une part du gâteau, une petite part du gâteau que les grands médias se partagent ». C'est une question plus large, hein, de citoyenneté.
Bien
là.
Sûr. Bien sûr. Oui.
Alors, évidemment que la question des aides à la presse est importante parce qu'elles sont très mal réparties. C'est les groupes des milliardaires qui touchent la majorité des aides à la presse. Alors, évidemment qu'il y a certains médias indépendants qui diraient pas non pour en toucher une partie. Il y a cette histoire de part du gâteau. Mais plus généralement, quand la mairie, par exemple, de Montpellier répond pas à nos questions, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça donne l'impression qu'ils ont un sentiment d'impunité, qu'ils sont trop habitués à avoir des laquais et plus à avoir des poils à gratter. Et que du coup, ça donne une mauvaise... C'est-à-dire qu'ils sont élus, ils ont théoriquement des comptes à rendre. S'ils décident de pas avoir de comptes à rendre, c'est préjudiciable à la fois pour leur image... et pour la démocratie locale, quoi. Parce que, par exemple, je reprends l'exemple de la vidéosurveillance, c'est quand même un enjeu de liberté fondamentale qui devrait être au centre du débat public. Et le fait qu'ils ne veuillent pas nous communiquer ces informations, ça en dit long sur qu'est-ce qu'ils pensent du débat public, quoi.
Alors... J'entends, mais...
éduquer là-dessus. Moi, je pense que on se pose beaucoup la question de comment on va faire passer le. Donc, selon nos tempéraments et nos médias et nos histoires, on n'a pas la même. Mais je pense qu'il faut les éduquer. Il faut poser les questions déjà. Il faut poser les débats. Il faut dire quels sont les enjeux d'un débat clairement déjà.
Poser. Une interpellation publique.
On verra, hein, mais je pense qu'il faut simplement le formuler, l'énoncer, et puis après trouver les moyens. Mars Actu a fait, il y a quelques années, une pétition pour demander la transparence des aides aux collectivités locales dans son coin. Mars Actu est invité de ce 23 avril, là, à 18h au Diagonale. Donc voilà, peut-être voir avec les confrères. Il y a un éveil comme ça de cette presse qui se fait partout, sur tous les territoires, avec peut-être des choses à mettre en commun.
Alors bon, on a vu quand même ce sujet, bon, est extrêmement important. Bon, on ne pourra pas en épuiser les contenus, mais on en voit quand même les lignes de force. Hein, et encore, cette idée que je retiens, c'est que cette question-là, il faut la mettre sur la table. Elle ne concerne pas que vos parcours personnels de journaliste sobre ou pauvre, mais c'est une question d'intérêt général. Parce qu'après tout, on pourrait aussi vous rétorquer que les collectivités, elles sont légitimées à décider de l'argent public, elles ont été élues démocratiquement. C'est la question de rendre des comptes, hein, que vous avez posé notamment vous-même.
C'est le combien ça coûte en matière d'information, c'est important.
Alors on arrive, bon, bien sûr, à la fin de cette émission. Vous êtes probablement un peu frustrés, j'espère que les auditeurs ne le sont pas. Peut-être pour finir, chacun d'entre vous, c'est une question que je pose souvent sur ce que vous faites, sur le média, quand vous êtes un des piliers, sur votre pratique professionnelle. Quelles sont les idées reçues que vous rencontrez sans arrêt dans vos parcours, des choses qui sont délibérément ou involontairement fausses ou faussées, que vous pouvez profiter de votre présence au micro de dégommer au passage. Idées reçues.
Alors, nous, comme on est dans le contre-pouvoir, on est taxé chez la droite d'extrême gauche et chez la gauche d'extrême droite. Donc voilà, ça fait plus de 20 ans que ça dure.
Alors, c'est bon signe. Hein.
Alors voilà, c'est pas...
Oui, parce que c'est cette propension, bon, qui est assez généralisée, de l'étiquetage, quoi. Ou de...
Voilà, du... Voilà, on... Vraiment, c'est incroyable, mais partout, on est catalogué de parce que on utilise notre le fait d'être un contre-pouvoir et de diffuser des infos qui mettent en avant, on va dire, l'opposition en général.
Alors, il y a presque une même question avec la même brièveté.
Nous, il n'y a pas cette ambiguïté de savoir si on est d'extrême gauche ou
d'extrême droite. Oui, voilà, pour le coup, c'est clair.
On est caractérisé plutôt à l'extrême gauche. Mais voilà, l'idée reçue, qui a été notamment relayée par les grands médias, notamment en 2018, c'était qu'on était l'organe de propagande officiel du Black Bloc ou que sais-je. C'est absolument pas le cas.
Je rappelle que vous suiviez les mouvements sociaux.
Voilà.
Les Black Blocs, c'est cette partie des militants qui se manifestent.
En noir.
voilà, un noir et d'un effort spectaculaire et parfois violent. Du coup, vous étiez enfermé dans cette case là pour le.
Absolument. Et on rappelle qu'on n'est membre d'aucune organisation politique ni d'aucun syndicat pour l'instant. Je corrige Valérie, on n'est pas au SPIL, nous d'ailleurs.
Ah.
Et donc en fait, oui, évidemment qu'on a des opinions et une ligne éditoriale, mais on ne roule pour aucune paroisse.
Alors, bon, Valérie, même question, quels sont les ce qui est bon dans vos parcours, Montpellierin, vous et l'équipe étoffée autant que bénévole qui produit locaux, à quoi elle se heurte-t-elle, quoi?
Ben nous, on passe pour des intellectuels juste parce qu'on réfléchit un peu, mais ça, c'est aussi un grand classique. Non, après, vous disiez... Alain, modeste et vif et pauvre, etc. Donc, plutôt les idées reçues sur les médias indépendants. Aujourd'hui, ils commencent à ressembler à quelque chose et à peser et à être influents. C'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement, on est des petits médias, chacun dans son coin. C'est pas tout à fait vrai. Chacun a de l'influence. Par exemple, La Glorieuse fait trembler le Landerneau local et Le Point aussi. Donc, il y a de l'influence et il y a une existence et de plus en plus importante. Et c'est ça que la journée du Diagonal, la soirée du Diagonal le 23 avril va démontrer.
Oui, Tristan.
Simplement, un mot pour conclure. La presse indépendante constitue 9% aujourd'hui des lecteurs. C'est ce que...
Nationalement.
Nationalement. Donc ça veut dire que, bon, c'est pas très important, mais ça va en croissant.
C'est pas 0,9 en tout
non,
cas.
Non, c'est 9%. Et c'est un peu à la marge, mais bon, voilà, les gens s'informent de plus en plus là-dessus. Ouais.
Alors merci à tous les trois. Avant de conclure, donc je rappelle le rendez-vous donc des états généraux de la presse indépendante version Montpellier au cinéma Diagonal le 23 avril à partir de 18h. Premier temps, présentation des 59 propositions émises au national par le Fonds pour la presse libre par François Bonnet, président du Fonds et cofondateur de Mediapart. Après un débat sur les enjeux de l'indépendance pour les médias de territoire, déjà cité par le rédacteur en chef de Mars Actu, le pétulant site internet marseillais dont son rédacteur en chef Jean-Marie Le Forestier. Deuxième partie de cette soirée, à 20h, la projection du film Ithaca, le combat pour libérer Assange, complété par un débat avec Laurent Doré, journaliste indépendant, porte-parole du comité de soutien Assange. On pourrait parler de Assange, ça sera pour une autre fois, qui a coordonné l'édition du livre Julian Assange et Wikileaks, Le combat du siècle pour la liberté d'informer. J'indique que l'entrée est gratuite pour le débat et ensuite payante au tarif habituel au cinéma Diagonal pour le documentaire. Bon succès pour ce rendez-vous du 23 avril.
Merci.
Madame, messieurs, au revoir.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.